Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? La passion. La passion, ça me fait marcher. Quand j'aime quelque chose, je mets toutes les chances de mon côté pour les réussir. Et même les obstacles, en fait, je sais comment les transformer en avantage pour pouvoir atteindre mes buts. Donc, je suis vraiment... j'aime la passion. Parce que ça, la passion, comme l'a dit un philosophe, je ne sais pas lequel, j'ai oublié, rien de bien ne s'est accompli dans le monde sans passion.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Aïcha Maki, la réalisatrice de L'Arbre sans fruits, documentaire produit par les films du Balibari, projeté dans le cadre de la 38e édition du Festival des Trois Continents.
Je suis formée au département de sociologie à l'université Abdou Moumoune de Niamey, là où j'ai obtenu ma maîtrise spécifiquement sur les questions de conflits fonciers et l'immigration dans une zone qui a été déclassée en 1974 pour une utilité publique suite à la sécheresse qui s'est abattue dans les Armaganda. L'État avait déclassé une partie de la forêt du parc W pour recaser ces immigrés, et donc c'est là que j'ai fait mon mémoire sur le conflit foncier et l'immigration dans une aire de pâturage Peul où des armes ont été recasées.
Et après tu te dis, je vais faire du cinéma.
L'histoire du cinéma, c'est toujours la sociologie qui m'a amené sur ce terrain du cinéma. Bon, c'est vrai, je ne vais pas les nier de le bas âge. En fait, j'avais cette passion de l'art en général parce que quand j'étais déjà à l'école primaire, j'avais l'âge de 7-8 ans, j'avais accompagné pour la première fois mon école à la fête scolaire régionale qui se faisait à l'époque. Et donc du coup, j'étais choisie pour être la cantatrice des Ender pour chanter une chanson qui a été faite et composée par le feu Issa Chérif, qui était un instituteur. Et du coup, j'avais eu l'honneur d'être la cantatrice de cette chanson Zender, région de mon enfance. Donc c'était comme ça que j'ai pris goût à la scène et depuis lors, je n'ai pas arrêté. J'ai été formée au Centre culturel franco-nigérien des Zender. J'ai continué à arriver au collège, à l'école Zengoufi des Zender, au collège CG2 Zender toujours, et au lycée Kurandaga, là où j'ai eu la chance avec quelques amis à diriger le club culturel du lycée. Et arrivé à l'université, pareil, je continuais au niveau de la CAC et du club UNESCO. Donc tous ces parcours, c'était vraiment dans le domaine de l'art, là où je faisais un peu du tout, du poème, du théâtre, des chansons, et voilà. Donc c'était comme ça que je suis, mais proprement dit, je suis arrivée dans le cinéma grâce à la sociologie, parce que sur le terrain, je rencontrais plein de mots qui minent la société nigérienne. Et je me suis dit, puisque la majeure partie de la population est analphabète, donc pourquoi ne pas aller vers le cinéma, qui est quand même une image, qui est un langage international, pour pouvoir amorcer un changement de mentalité au niveau de pas mal de thématiques et des mots qui minent la société nigérienne. Voilà comment je suis arrivée en gros dans le domaine du cinéma.
Tu marches très vite, Aïcha.
Ah oui.
Et j'ai du mal à te suivre.
Ah oui, ça c'est mon point fort. Et d'ailleurs, je vais te raconter une anecdote sur mon film d'école que je fais au Sénégal. Il y a les femmes sénégalaises qui trouvent que je marche comme un soldat qui va en guerre et par conséquent, je ne suis pas une bonne femme, entre guillemets, à l'africaine. Une femme qui est censée marcher comme sur une pelouse, qui devrait normalement marcher en se déhanchant et tout ça. Donc c'est ça qui a constitué d'ailleurs mon film de fin d'études à celui du Sénégal, là où j'ai étudié le cinéma.
Est-ce que c'est important pour un couple d'avoir un enfant?
Oui. Pour moi, oui. C'est pas. Oui, c'est important quand même d'avoir un enfant. Minimum un enfant. C'est bien.
Pas deux?
Bon, pourquoi pas, mais ça dépend. Voilà. Si c'est avoir deux enfants pour avoir des problèmes après avec l'économie, vous savez, et tout ce qu'on passe en ce moment en France, c'est pas trop bien. Mais enfin, voilà, c'est bien.
Ce ne sont pas des bébés d'amour, ce sont des bébés qui coûtent.
Ah non, pour moi, je voudrais bien, si une fois dans ma vie, je vais faire un bébé avec quelqu'un, pour moi, ça sera bien de faire un bébé pour amour, pas pour un bébé qui coûte. Parce que si c'est pour avoir la CAF, de soleil, de toucher, de seil, ah oui, vraiment comme ça. Bon, moi, ça me dit rien, voilà.
À Cuba, quel regard porte la société sur les femmes qui n'ont pas d'enfants?
Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que chez nous, avoir un enfant, c'est très important, sauf que dans les moments, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon pays, c'est un petit peu compliqué la situation, l'économie surtout. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas la maison propre, on n'a pas beaucoup de choses que ça manque là-bas. Et de plus en plus, il y a des femmes chez nous qui n'ont pas vraiment envie d'avoir un enfant. C'est compliqué, voilà.
Mais elles sont bien vues, ces femmes.
Ah oui, oui. Bon, oui, sont normales, comme tout le monde, mais... Voilà, je dirais oui, sont bien vues. Pourquoi il me pose cette question?
En fait, il vous pose cette question parce que... J'ai amené mon film ici à Nantes qui porte sur la question de l'infertilité, la perception de la femme qui n'est pas mère dans la société nigérienne, sur la question de l'infertilité. Quand une femme n'arrive pas à donner la vie, comment elle est perçue dans la société nigérienne? Ouais, c'est ça la thématique du film et c'est mon histoire personnelle.
Voilà.
C'est l'histoire de beaucoup de femmes chez moi. Quand un enfant ne vient pas après un certain nombre d'années dans le couple, il y a des problèmes... Ça se solde par les divorces, la frustration et plein de choses.
À Cuba, la polygamie n'existe pas?
Non. Chez nous, c'est interdit, ça n'existe pas, non. Est-ce que chez vous, ça existe aussi?
Ouais. Nous, chez nous, c'est un pays laïque, mais à plus de 90% musulmans. Donc la polygamie, elle n'est pas interdite, elle est permise. Et moi, je suis issue d'un foyer polygame.
Ah oui?
Oui, d'ailleurs, à laquelle cette polygamie, je dois tout. Mais j'ai dit tout parce que j'ai été épaulée par toute ma famille, tous mes frères avec lesquels je suis ici, du même père ou de la même mère. Voilà. J'ai perdu ma mère pendant que j'avais 5 ans.
Ouais.
Elle donnait naissance à mon petit frère. Voilà. Donc, d'où le film qui est un parallélisme entre l'histoire de ma mère qui est morte en donnant la vie et mon histoire de femme qui était mariée pendant 5 ans mais qui n'a pas pu donner la vie. Donc, voilà.
C'est triste. Désolé, mais c'est triste quand même. Ça me touche énormément parce que, je ne sais pas, chez nous, on est trop famille, on est trop désolé.
Il y a aussi la question que quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, on pense que c'est souvent la femme qui en est la cause.
Mm-hmm. Ah oui. Parce que bon, du fait que la femme, elle est le réceptacle de la vie, donc quand un bébé ne vient pas dans un couple, tout de suite c'est la femme qui est indexée. C'est elle qui fait les examens, c'est elle qui part voir le médecin, mais souvent les femmes que j'ai rencontrées dans le cadre du film, elles sont abandonnées à elles seules dans ces combats.
Voilà.
Et du coup, donc, l'infertilité, elle est conjuguée au féminin au Niger. D'ailleurs, il n'y a pas qu'au Niger, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à Zagora, au Maroc, il y a 4 jours. Il y avait mon film qui était en compétition. Il y a une Marocaine qui m'a raconté qu'au Maroc, il y avait une grotte qu'ils appelaient la grotte des saints, là où les femmes qui n'ont pas d'enfants allaient se recueillir. Elle me disait qu'en fait, pendant longtemps, il y avait beaucoup de femmes qui sont passées par cette grotte. Mais il y avait un jour une femme qui était partie, mais qui était vraiment fort amoureuse de son mari. Et quand elle est rentrée dans la grotte avec sa bougie,
bougie allumée,
Et quand elle est rentrée, elle a croisé un monsieur de la grotte qui est sorti et qui lui a proposé, comme si c'était un esprit saint, de coucher avec elle. Et elle a compris, elle est sortie, elle a averti tous les hommes qui étaient dehors, qui attendaient leur épouse dedans. Elle a dit que mais j'ai vu un monsieur dedans, il a voulu faire l'amour avec moi, le sexe disons avec moi. Et du coup, les hommes, ils sont rentrés dedans, ils ont pris le messier, ils l'ont tabassé. Et voilà, l'histoire de la grotte est terminée Pour vous prouver combien ça va au-delà du Niger. En fait, c'est un peu partout. J'ai rencontré plein de gens. Oui. Une Ghanéenne que j'ai rencontrée aux États-Unis qui m'a dit qu'il y a un village au Ghana là où les femmes qui n'ont pas d'enfants sont brûlées vives. Parce que tout le malheur du village, les décès des enfants, tout. Elles sont comptables de tout ce qui se passe dans le village.
Oh là là, c'est triste. Oh, je n'ai pas entendu parler de ça, ça me fait mal.
Christina, est-ce que vous avez une recette pour faire des bébés?
Non. Non, pas du tout.
Non,
je ne sais pas. Désolée, mais je ne sais pas. Ça fait des années que je ne fais pas un bébé déjà. Il n'y a qu'une seule fille, elle a 26 ans déjà. Je m'ai arrêtée là et après, désolée.
Moi, personnellement, il y a des charlatans, je veux dire, en fait, qui m'ont dit il faut égorger un bouc noir, il faut enjamber des boucs, boire du sang, te laver tard la nuit au pied d'une termitière, l'heure où tout le monde dort. Voilà. Et tu as vu un de mes personnages à qui un charlatan a proposé d'écrire sur son encre.
Oui.
En fait, son encre, c'est son sexe. Et mettre dans son encrier pour remuer, et comme ça, elle aura un bébé. Ouais.
Non, je ne crois pas ça.
Ouais.
Ah oui, quand même. Et elle a réussi aussi à avoir son bébé comme ça.
Mais non, elle a pas accepté. C'est pour ça qu'elle dénonce.
Pour moi, c'est un petit peu... Attention.
Il y a un itinéraire.
En fait, j'ai essayé de faire tout le parcours qu'ont l'habitude de faire ces femmes-là. Quand un bébé ne vient pas, la première des choses à laquelle on pense, en fait, c'est rarement d'aller voir un médecin.
Oui.
C'est aller voir un charlatan pour avoir des recettes traditionnelles. Et après, quand ça ne va pas, on va aller voir le médecin et le conseil des grand-mères et tout ça. Donc, j'ai retracé tout le cheminement que font les femmes qui n'ont pas d'enfants pour un peu retracer juste simplement la vie de ces femmes qui n'arrivent pas à donner la vie.
C'est bien.
Vous voyez votre père?
Oui, mais ça s'est arrêté dans certaines générations, parce que la génération d'aujourd'hui, vraiment, chez nous, on titouille beaucoup, on peut titouiller tout le monde, mais avant, on ne pouvait pas. Et ça reste encore, moi, j'ai 47 ans déjà, je ne peux pas titouiller mon père ni personne de ma famille, voilà. Aujourd'hui, oui, ils le font de plus en plus, c'est comme ça.
Aïcha, on ne se connaît pas, même tutoie, mais vous voyez son père?
Oui, je le vouvoie, mon père, parce que chez nous, le vouvoiement, c'est un signe de respect. Toute personne qui est plus âgée...
Donc, Aïcha ne me respecte pas.
Non, c'est pas ça.
Mais non, en fait, j'ai appris en venant en Europe, et tu vois, tout ça, la première des choses, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer? Et je me suis rendu compte qu'en fait, le tutoiement, ça casse une barrière.
Voilà.
C'est important quand on se tutoie, on se laisse aller tout de suite et tout ça. Mais avec nos parents, avec les gens qui sont plus âgés, c'est comme chez vous en fait.
Oui,
la génération d'aujourd'hui, ça commence à...
Ma génération, et la aussi, génération ça d'avant, oui, mais aujourd'hui...
Dans une certaine, dans certaines familles, les gens se tutoient, ils tutoient leurs parents, mais chez nous, c'est beaucoup plus conservateur. Donc on vous voit les parents.
Chez nous aussi un petit peu.
Oh, bienvenue.
J'ai assisté à l'accouchement, bon, disons, on peut l'appeler comme ça derrière la caméra, mais j'avoue, j'ai pas pu résister. Il y a des moments où, quand ça monte la douleur du travail, quand ça monte à un certain degré, je me sentais obligée de sortir, quitter la salle, aller un peu me reposer, retrouver mon souffle et revenir. Parce qu'à un certain moment, j'avais vraiment les pieds qui tremblaient, j'avais ma main et c'est tout mon corps. Et du coup, c'est comme si je faisais le travail avec la femme qui était sur le lit d'accouchement. C'est un moment en fait de joie parce que je savais que le bébé allait venir, mais j'avais aussi peur que la femme qui accouchait trépasse comme ce fut le cas de ma mère. Donc du coup, j'étais partagée entre la joie, la peur, la crainte. Tout ça, c'est un sentiment qui était mélangé dans ma tête. À un certain moment, j'arrivais pas à supporter. Je sortais, je revenais. J'avais envie de voir comment allait arriver le bébé, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Donc, il y avait un aller-retour. Je sortais, je revenais, je sortais, je revenais.
Nous accompagnons dans la rue Aïcha Maki, la réalisatrice de L'Arbre sans fruits, un documentaire produit par les films du Balibari. Le poids des traditions, les filles n'ont pas le droit d'aller visiter un cimetière.
Je ne sais pas comment l'expliquer, puisque tout ce temps, j'ai jamais eu le courage de demander à ce qu'on me montre le cimetière, la tombe de ma mère. Mais à chaque fois, je me disais, quelque part, elle est là, la tombe, elle existe. Et quand je serai prête à aller la voir, ou voilà, je vais aller la voir. Et puis voilà, elle est là, je vais aller me recueillir. Mais grande fut ma surprise de savoir que non, je ne peux pas aller au cimetière. Et ce n'est pas l'islam qui l'interdit, en fait, parce qu'après, je me suis informée. C'est tout simplement la culture. C'est culturel et du coup, ce qui fait que souvent, il y a un certain amalgame entre la religion, la culture, la coutume, les us et tout ça. Donc, c'était quand même une petite déception pour moi de ne pas pouvoir aller voir la tombe. Et surtout que j'ai appris que la tombe n'existe plus. Donc, ce n'est pas comme chez les chrétiens, là où on a une tombe, là où on écrit son nom, on peut faire même un monument et tout ça. Non, chez nous, comme tu l'as vu, d'ailleurs, c'est juste un tas de sable et puis voilà. Après, ça disparaît, on remplace par d'autres et tout ça. Et souci aussi d'avoir, un espace parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace qui pouvait accueillir tous nos morts. Donc, du coup, les anciens corps sont remplacés par de nouveaux qui venaient, tout ça.
Tu as dû avoir un choc.
J'ai l'habitude d'apercevoir en fait les cimetières du passage. Et tiens-toi bien, on n'a pas filmé l'endroit là où il y a vraiment beaucoup de tombes. On a filmé l'endroit là où c'est un peu désert, c'est pas assez occupé. Parce que de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient là à l'entrée de la grande porte. Et je ne pouvais pas prendre le risque de rentrer dans un cimetière musulman avec mon cadreur, Julien Bossé, qui est un Français et qui n'est pas musulman. Donc c'est comme une sorte de profanation, tout ça, des trucs comme ça. Et donc on a préféré aller de l'autre côté, là où c'est un peu désert, là où personne ne peut nous voir, donc pour aller filmer et ressortir.
Sauf que les images existent maintenant.
Les images, oui, elles existent. Et j'avoue que quand je vois le cimetière, il y a un sentiment, je ne sais pas comment l'exprimer en fait, qui m'anime. Ça fait partie des séquences en fait qui me touchent énormément parce qu'à chaque fois quand je vois cette image, j'ai l'impression quelque part de voir ma mère ou de voir un nom, son nom affiché quelque part pour me dire, pour mettre un nom en fait sur une tombe qui pouvait lui appartenir.
Sur cette étendue de sable, ta mémoire s'efface et se laisse emporter par le vent. De ta disparition en couche, je ne sais pas grand-chose, sauf que ce drame est fréquent au Niger. Ici, une femme est un arbre à l'ombre duquel se repose son époux à qui elle donne des fruits. Toi, maman, tu as donné 6 enfants à mon père. Moi, je suis un arbre d'ornement et d'ombrage, un arbre sans fruits.
Merci à Aïcha Maki, la réalisatrice de L'Arbre sans fruits, documentaire projeté dans le cadre de la 38e édition du Festival des Trois Continents. Et merci à
Christina
pour leur libre participation à ce reportage.
Écrire un film, c'est faire un repérage, choisir d'abord la thématique qu'on veut traiter, pourquoi on veut la traiter et pouvoir le coucher sur papier. Écrire clairement ses intentions formelles, politiques et tout. Et écrire un synopsis qui donne un bout de détail par rapport à ce qu'on veut filmer et qu'est-ce qu'on veut montrer et pourquoi. On veut le faire pour pouvoir convaincre les partenaires à financer. Parce qu'un film, ça se fait avec de l'argent. Et donc, du coup, l'écriture, en fait, c'est un moyen de convaincre les producteurs à accepter de nous produire. Et aussi, c'est un moyen pour eux d'avoir une base leur permettant d'être en contact avec des partenaires pour pouvoir financer le film.